grand dialogue
sigi kafoba
edowani wa maqaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni biro
halud mawni
chenni biri sigi kafoba
le grand dialogue
le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Grand Dialogue du Studio Tamani. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, nous faisons appel à nos confrères journalistes pour débattre des questions d'actualité. Cette semaine, l'actualité est dominée par les négociations d'Alger entre le gouvernement et les groupes armés, l'échange de prisonniers et la signature de l'accord de défense entre le Mali et la France. Trois événements qui se déroulent au même moment. Pourquoi cela? On peut espérer des pourparlers. Que peut-on espérer des pourparlers? Et que gagne le Mali dans l'accord de défense signé avec la France? Pour répondre à ces questions, nous avons invité pour vous Shahana Takiou du journal 22 septembre, Ibrahim Koulibaly du journal Nouvelle Tribune et Draman Aliou Kone de Renouveau FM. Sira Bachili est au micro pour animer ce débat, mais avant tout propos, nous vous proposons d'écouter le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop.
Le Mali est une vieille nation dont les royaumes et les empires ont été bâtis sur la guerre, mais aussi sur la paix. Nous avons longtemps appris de cette histoire que la paix a ses gloires non moins importantes que celles de la guerre. Voilà pourquoi nous avons choisi la paix et que nous nous trouvons aujourd'hui en face de vous. Avec cependant l'espoir que ce face-à-face finira dans quelques jours par un côte-à-côte pour bâtir dans un proche horizon le Mali de nos espérances. Cette fois-ci, la main dans la main et définitivement.
Voilà, bonsoir chers confrères, vous l'avez suivi avec moi. Depuis mercredi, se sont ouvertes les négociations entre le gouvernement et les groupes armés. Ces pourparlers devront aboutir à un accord de paix. Pour y parvenir, il y a des facilitateurs aussi bien que des médiateurs, le Burkina Faso, l'ONU, la CEDEAO, entre autres. Les discussions se sont déroulées depuis hier à huis clos. Je me tourne vers Shahana Takiou. Quelles peuvent être les chances de réussite des pourparlers d'Alger?
Bon, je pense que les négociations sont bien parties pour aboutir à un accord acceptable pour tout le monde, c'est-à-dire un succès. Ce sont des négociations qui se déroulent en trois phases. La première phase est en train de se tenir en ce moment à Alger. Elle porte sur l'adoption d'une feuille de route. Donc, la deuxième phase sera les négociations proprement dites. Qu'est-ce que nous pouvons accepter pour les différents mouvements rebelles? Qu'est-ce que le Mali peut donner au mouvement rebelle? Qu'est-ce que le Mali peut concéder au mouvement rebelle? En échange, bien sûr, du renoncement à l'autonomie, à l'indépendance et à l'acceptation d'un État républicain, et le respect de la laïcité également. Qu'est-ce que nous pouvons accepter pour ce mouvement rebelle? Et la dernière phase sera la phase de la signature que le président de la République a souhaité et que ça se fasse ici au Mali. Donc la troisième phase sera rapatrier au Mali pour la signature d'un document global final qui va sceller un accord entre les mouvements rebelles et le gouvernement du Mali. Je pense que Alger est bien parti. Nous sommes à la phase de l'adoption de la feuille de route. La presse privée malienne est ici à Bamako. C'est l'ORTM qui nous informe de temps à autre. Nous ne savons pas exactement comment les choses se passent. Donc, nous ne pouvons que faire des commentaires et analyses sur la base des informations données par l'ORTM. Et sur la base de ces informations, je pense que c'est bien parti.
Cependant, vous êtes optimiste quand même.
Et il faut être vigilant. Il faut être vigilant et une négociation, ça ne va pas se faire sur des roulettes. Il y aura des blocages, il y aura des suspensions, il y aura des gens qui vont claquer la porte. Ça fait partie des négociations. Mais avec les facilitateurs, avec le négociateur, ils reviendront à la table de négociation. Et j'ai dit encore qu'il faut être vigilant, même si l'optimisme est permis.
Alors, Draman Aliou, connaît votre avis là-dessus?
Bon, je pense qu'il dit que c'est bien parti. Quand il y a déjà un grand acquis, c'est le fait que tout le monde est d'accord qu'il faut l'unité et l'unicité du Mali. Il faut un État laïque et républicain. Il faut aussi renoncer à l'indépendance et à l'autonomie. Pour autant, il y a des blocages. Parce que déjà, on a su d'une chose, les gens vont revenir à Bamako lundi ou mardi. Or, on était parti pour 15 jours pour négocier jusqu'à la fin et obtenir un accord final. Déjà, les rebelles ont fait un premier blocage hier en disant qu'il faut d'abord alloter une feuille de route. C'est-à-dire que la feuille de route du Mali a été rejetée. C'est ce que nous avons appelé avec les confrères algériens que j'avais avec quelqu'un à 16h. On va reprendre les feuilles de route demain. Aujourd'hui, ils ont suspendu les négociations pour que chacun des différents camps puisse élaborer son, sa, faire ses propositions, préparer ses argumentaires. Et demain, ils vont se trouver pour adopter la feuille de route qui sera entre guillemets consensuelle. Et je vois que les mouvements rebelles, les mouvements comme le Mela et la Asuya, ont demandé qu'on suspende les travaux pour qu'ils puissent aller préparer les équipes de négociation. C'est-à-dire que le premier objectif qui avait été adopté par le Mali et l'Algérie, qui consistait à aboutir avant le 31 juillet à un accord, est déjà remis en cause. Parce que les rebelles demandent une suspension à partir de lundi ou mardi. Mais ce qui est sûr, le Mali a un grand acquis, c'est que l'indépendance et l'autonomie qui étaient bon, des objectifs, à la limite, pour moi, c'est de la surenchère. Hein. Et même, ils n'ont même pas besoin, ils ne cherchent pas l'indépendance, c'est de la surenchère. Ils ont renoncé à ça. Ils ont tous dit, dans le discours de Djéry, ils ont dit clairement dit que, seulement c'est un Malien, seulement ils trouvent des solutions aux problèmes qui sont été posés. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Et d'ailleurs, ce qu'il faut souligner, ils sont essoufflés, les rebelles même. Parce qu'au-delà de tout, ils ont une opinion aussi sur le dos. Ils ont le combattant à nourrir. Malheureusement, on a constaté que financièrement, ils sont très essoufflés. Ceux qui se les soutenaient jusqu'à présent ont compris que leur programme n'est pas tenable et il faut vraiment aller à une paix. Au-dessus de tout ça, il y a la Cour internationale qui met la pression autant sur le gouvernement que sur les rebelles. C'est qu'ils disent obligatoirement vers un accord qui peut être vraiment satisfaisant pour tout le monde, mais c'est que si on aura un accord, quoi qu'il en soit.
Alors, Ibrahim Koulibaly.
Merci beaucoup. Moi, je pense que mes deux confrères ont dit l'essentiel sur ce sujet-là. Mais quand même, il faut saluer l'initiative, parce que ça faisait longtemps, on traînait les pieds, alors que l'accord de Ouaga avait demandé à ce que les négociations commencent 3 mois après l'élection du nouveau président. Et aujourd'hui, nous sommes jusqu'à 9 ou 10 mois. Donc, ça veut dire qu'on traînait un peu. Donc, aujourd'hui, le fait qu'on se retrouve tous en Alger pour aller débattre, en tout cas, et ouvrir en tout cas la voie aux négociations est une très bonne chose. Mais moi, je dis que le Mali doit faire extrêmement attention. Il y a un certain nombre d'éléments déjà qui ne plaident pas en faveur du Mali. On est parti avec une feuille de route qui a été rejetée. Et de vous à moi, les 12 questions...
Non,
en tout
moi
cas,
je ne comprends pas. Quand vous dites rejeter, qui rejette?
Oui, oui, les autres. Non, parce que, s'il vous plaît, Chana, s'il vous plaît.
Non, ne dites pas rejeter.
Chana,
s'il
vous plaît, le laisser terminer. S'il vous plaît,
quand je dis rejeter, c'est vrai. Si ce n'est pas rejeter, ça veut dire que c'est sur cette base-là qu'on va travailler. Donc, si vous amenez en négociation, moi je négocie avec toi, Chana, si on doit négocier sur la base d'une feuille de route, cette feuille de route doit être faite de commun accord. Donc le Mali a amené sa feuille de route qui n'a pas fait l'unanimité. Et maintenant, c'est une nouvelle feuille de route qui va être élaborée de commun accord. Et c'est sur la base de cela que les négociations vont porter. Donc maintenant, un de deux, et croire que le Mali, en contrepartie du renoncement du MNLA à l'indépendance et à l'autonomie, que le Mali doit leur donner quelque chose, moi je crois que ça c'est un piège. Si cela doit être un préalable aux négociations, c'est un piège. Ce n'est pas parce qu'ils ont renoncé à l'autonomie et à l'indépendance qu'en contrepartie, on doit leur donner quelque chose. Non, ça dépend de ce qu'ils vont amener dans leur cahier de charge. C'est-à-dire, s'ils amènent des propositions concrètes, les négociations doivent se faire par rapport à ces négociations, à ces propositions concrètes. Mais dire qu'ils ont renoncé à ça, il faut qu'on leur donne ça. Si le Mali part sur cette base, on va se faire piéger. Et déjà, moi je crois, si on ne fait pas l'oiseau de mauvaise augure, nous espérons tous sur un accord, en tout cas définitif, par rapport à cette histoire-là. Mais les groupes de négociation amenés, en tout cas analysés du côté du gouvernement, doivent faire extrêmement attention. Ils ont amené une équipe pléthorique, mais qui, en matière de manège, moi je ne crois pas beaucoup aux capacités d'analyse et de réflexion de l'équipe, de la délégation qui est là, mais
la
on
délégation
désespère
gouvernementale
pas. Délégation gouvernementale, on ne désespère pas. Mais un seul fait que je vais déplorer, Chana l'a touché, ça c'est l'absence de la presse malienne. On ne comprend pas pourquoi la presse malienne n'a pas été associée à cette mission.
La presse privée.
La presse privée, la presse privée. La presse privée. Mm-hmm. Même la presse d'État, il a fallu des tractations pour que la presse d'État
non,
y
non,
soit.
Ça c'est une manœuvre seulement, parce qu'ils ont voulu éliminer la presse privée. Ils ont dit des journaux d'opposition parce qu'il y avait des dons qui ne leur convenaient pas. Et pour ça, ils avaient une manœuvre pour mettre tout le monde de côté. Là, l'OTM et l'AMAP sont partis. Mais là où le drame, aujourd'hui, comme Chara a dit, qui nous informe aujourd'hui? Nous sommes informés par d'autres canaux qui ne sont pas les nôtres. Mm-hmm. Et aujourd'hui, Chara, même à l'attente, il doute bien de tout ce que l'OTM nous rapporte comme information. Mm-hmm. Pour dire qu'on doit être sur place, mettre la pression sur ces gens. La pression de la presse aussi, c'est une pression en soi, mm-hmm, pour les négociations. Malheureusement, on est là. Et si c'est dangereux, même parce qu'aujourd'hui, on peut saluer la presse malienne, quoi qu'on dise, on est assez patriote. On n'est plus citoyen malien que journaliste aujourd'hui. Sinon, on peut nous manipuler à travers les fonctions qu'on a fait. Ce qui est sûr, hier, les négociations ont été bloquées sur la feuille de route. Et l'Algérie, je viens de lire la dépêche de son ministre des Affaires étrangères, a été clair, demain, on va faire une autre feuille de route consensuelle sur la base des propositions des différentes parties. C'est pas mauvais en soi, hein, mais ce qui est sûr, ce qui est évident aujourd'hui, il faudra pas qu'on se précipite. Parce que c'est donné une échéance pour dire qu'il faut aboutir avant le 31 juillet. On sait uniquement de la pression pour rien. Aujourd'hui, tout le monde a intérêt à aller doucement. Parce que si les gens, je vais dire ça, c'est les rebelles qui sont fatigués plus que l'État malien. Et c'est pourquoi il ne faut pas qu'on s'empresse sous la pression de l'Algérie ou d'autres partenaires qu'on aille nous mettre encore comme on dit, la corde au cou encore.
Pour aller brader le pays.
Il faut aller doucement. Négocions jusqu'au. Ça prend le temps qu'il faut, mais négocions en tenant compte.
Justement, qu'est-ce que le Mali peut négocier à Alger là-bas?
Oui, je disais tantôt, Sira, que les négociations ne vont pas se faire sur des roulettes, qu'il y aura des blocages, qu'il y aura des gens qu'il faut claquer la porte, qu'il y aura des suspensions. Je l'avais dit tantôt. Donc, dire que la feuille de route a été rejetée, c'est tout à fait normal. Que la feuille de route n'est pas consensuelle, c'est normal. C'est parce qu'il y a des accords que les deux parties vont en négociation. Quand on va en négociation, cela veut dire qu'il n'y a pas d'accord. Chacun présente ses propositions. Le Mali a présenté une proposition et qui n'est pas du goût des mouvements rebelles. C'est normal. Le mouvement rebelle a des propositions qui ne conviennent pas au Mali. Le Mali aussi les rejette. C'est normal. Donc, on rejette de part et d'autre. Il y a un facilitateur, un négociateur jusqu'à ce qu'on se mette d'accord sur l'essentiel. Et je pense que les négociations se sont ouvertes sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est le Mali. L'essentiel, c'est quoi? C'est l'unicité du Mali. C'est la laïcité du Mali. C'est la forme républicaine du Mali. Donc voilà l'essentiel. Nous avons eu l'essentiel. Maintenant, ce qui reste, ce sont les détails qui sont aussi importants ici. Tu dis en renoncement à l'autonomie, à l'indépendance, il ne faudrait pas qu'on le concède quelque chose. Obligatoirement, il faut que l'État du Mali concède quelque chose.
Quoi, par exemple?
On va à négociation. Je ne sais pas beaucoup parce que je n'ai pas vu d'abord les propositions de mouvements rebelles. Mais moi, je sais que de par le passé, les rebelles ont été intégrés dans les différents corps de l'armée. Les rebelles ont été intégrés dans la fonction publique. Est-ce qu'on va réitérer le même scénario? Point d'interrogation. Je me demande, aujourd'hui, qu'est-ce que l'État du Mali peut concéder aux mouvements rebelles indépendantistes? C'est vrai que nous avons une politique de régionaliste qui peut prendre quelque part leurs préoccupations autonomistes, mais pas toutes les préoccupations.
Mais
quel sera le sort de ces combattants, de ces milliers de combattants qui ne savent rien que manier les armes? Quel sera le sort de tous ces fonctionnaires, de tous les autres qui ont déserté? Je pense que c'est là le vrai problème, c'est là la vraie négociation. Vont-ils intégrer ou pas? Point d'interrogation.
Le débat est clos à ce niveau déjà. Les premiers étaient clairs. Ils vont être intégrés.
Oui, dans la feuille.
Voilà, ce que le premier ministre a dit, il a été clair, on va les intégrer. Il a même dit, c'est eux qui vont mieux combattre les terroristes et les groupes narcotrafiquants. Oubliez même parfois que c'est eux qui ont organisé ces mêmes trafics.
Mais ce que je veux dire. Ce que le Mali peut les offrir. Il faut obligatoirement
les intégrer. S'il vous plaît, on va observer une minute de pause.
Pour moi, ce n'est pas là le conseil. C'est qu'il s'est dit, il n'a pas tort.
Draman Aliou, une minute de pause, nous revenons après.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL,
des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foucault, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tiassiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz, Radio Djamana de Djéné, 91 MHz et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana, 91.4 MHz, Alfarouk de Tombouctou, 98 MHz, Issaber de Niafunké, 96.3 MHz.
Vous êtes à l'écoute du Forum de la presse sur le studio Tamani via nos 24 radios partenaires. Nous parlons de trois sujets d'actualité, les négociations d'Alger, la libération des prisonniers et l'accord de défense entre la France et le Mali. Nos invités sont Shahan Attakiou du journal 22 septembre, Ibrahim Koulibaly du journal La Nouvelle Patrie. La Nouvelle Tribune, pardon, Seydou Baba Traoré n'a pas pu faire le déplacement. Dramane Aliou Kone de la radio Renouveau FM. Alors, deuxième sujet de ce débat, c'est l'échange de prisonniers. Avant d'y venir, nous avions observé une minute de pause quand nous parlions tout à l'heure de réinsertion des groupes armés au sein de l'armée. Dramane Aliou Kone, vous voulez réagir?
J'avais dit que le premier ministre a déjà tranché la question. En fait, c'est ça son problème. Il parle trop vite, il parle trop. Je vois qu'il faut laisser les gens qui sont... Non, il y a une équipe qui a été chargée d'aller négocier au nord du Mali, qui a un mandat clair et net pour faire en sorte que les états du Mali soient préservés. Mais quand le président se met à parler, finit par nous impliquer. Aujourd'hui, on pense que le problème posé par Charles est tranché. Il y a même des polices locales qui vont être gérées par des combattants qui sont aussi complices des narcotrafiquants, des terroristes et autres. Là. C'est dangereux tout ça qui est en train de danger.
J'ai dit, Draman, ce n'est pas tranché parce que nous sommes sur la table de négociation.
Mais le premier ministre du Mali a clairement dit dans la presse que ces gens seront intégrés dans l'armée malienne.
C'est pour même combattre, dans la feuille de route.
Dans la feuille, pour le combattre les terroristes. C'est clair pour moi, en ce moment, pour lui, cette question est déjà tranchée. Et si on s'en tient, sauf s'il n'est pas prêt au Mali, si c'est une voie autorisée pour annoncer une action indigène du gouvernement malien. Parce il parle qu'il a parlé au nom de Moussa Ouara, il a parlé au nom du Mali, parce qu'il est premier ministre. Si tu n'es quand même pas premier ministre, il n'a pas accordé les crédits, c'est ce qu'il a dit. Mais en revenant au problème, en réalité, moi, j'aime pas que la négociation, les pouvoirs qui sont en cours, j'aime pas la négociation parce que ça compose entre France des gens qui sont votre égal. C'est des Maliens, c'est des pourparlers. On peut améliorer la gouvernance pour prendre en compte toutes les précautions qui ont été exprimées. Ils disent qu'ils ont été impliqués dans la situation de leur quotidien. Chacun a parlé du fédéralisme et du journalisme. C'était un système. Si c'est bien appliqué jusqu'à peu, mais la situation, si ça a été bien appliqué, on peut résoudre ce problème-là. Mais il faut qu'on soit dans un contexte ou dans une posture où je donne ça. Non. Là, ce n'est pas bon. Il faut qu'on. Comme ils ont dit qu'ils sont maliens, les réfléchissants sont maliens, tout la même formule politique. Et administratif pour trouver les solutions et pour trouver les réponses aux problèmes qui sont posés, parfois légitimes. Les régions du Nord ne sont pas développées, il faut le dire. Mais c'est la manière de poser les problèmes qui a l'origine de la guerre qu'on a connue. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, il ne faut pas s'empresser, il faut se mettre le couteau sous la gorge. Il faut que nous aboutissions à des accords avant le 31 juillet. Allons-y, négocions très, très méthodiquement, pédagogiquement, pour arriver à un accord qui ne sera pas un dictat. Et malheureusement, quand j'ai entendu qu'on veut avoir un accord le 31 juillet et une annonce soutenue par l'Algérie et le Mali, j'ai eu pris peur.
Bon, Dra, moi je pense que le problème souvent, on le situe seulement dans le camp des mouvements rebelles. C'est vrai qu'ils n'ont pas raison de prendre les armes contre le pays. Mais il y a une part de responsabilité de l'État, la mauvaise gouvernance. Les fonds, chaque fois qu'on dit alloués aux régions du Nord pour tel ou tel programme, tel ou tel projet, ces fonds-là sont mal gérés. Ces fonds-là sont détournés. Les projets et les programmes sont par les agents de l'État à mission au Nord. Ils achètent des terrains ici, ils viennent dans le mois 3-4 fois à mission, ils viennent pour construire, ils retournent avec des primes, des indemnités énormes. Ils louent des maisons là-bas à 500 000, alors qu'il n'y a pas une maison qui coûte là-bas à 500 000. Des maisons de 100 000, non. il y a la mal gouvernance.
Mais
j'ai changé la gouvernance. Le gouvernement ne doit pas prendre des engagements qu'il ne peut pas respecter. Dans le pacte national, il y a des engagements que le gouvernement a pris qu'il n'a pas respectés. Dans l'accord de Tamaracet, la même chose. Dans l'accord de 4 juillet d'Alger aussi, la même chose. Et j'ai eu à interviewer à l'époque Ibrahim Bahanga jusque dans les Tagaragara, qui disait qu'ATT n'a pas respecté ses engagements. Donc il ne faudrait pas que l'État s'engage à réaliser des choses qu'il ne peut pas faire.
Raison pour laquelle cette fois-ci en Alger, il ne faut pas se précipiter.
Voilà,
il faut le dire. Allons-y doucement, même si les négociations doivent prendre une année. Allons-y doucement. Prenons des engagements qui peuvent être respectés de part et d'autre pour qu'on ne revienne plus sur ce problème. C'est vrai, c'est facile d'accuser l'État malien. Mais aussi, les rebelles, c'est devenu un marché. Chaque fois qu'ils ont faim, ils prennent des armes. Chaque fois que d'autres veulent...
Tout ça, c'est la mauvaise gouvernance.
Je suis d'accord.
C'est la mauvaise gouvernance.
Je suis d'accord.
Si le 4 avril...
Mettons un peu d'ordre, s'il vous plaît. Il faut qu'il finisse, et puis vous réagissez après.
Moi, je suis d'accord si ce sont les populations du Nord qui parlent de ça. Mais moi, je ne comprends pas que des anciens ministres, que des députés qui vivent sur le dos du peuple, que des gens qui ont les moyens d'aller vivre en Europe, que des gens qui vivent de mercenariat, de guerre en Libye, en Afghanistan, qui prennent des armes pour venir poser des problèmes de développement. Ça, je suis désolé, je ne comprends pas. Si c'était des populations qui vivent au Mali, qui triment avec nous ici au Nord, qui prenaient des armes, ça, on allait le comprendre. Voilà. Mais des gens qui viennent de la Libye avec des moyens colossaux que l'État malais même n'a pas, des anciens ministres, des gens qui vivent à Paris, des gens qui vivent en Suisse et qui viennent nous poser des problèmes de Chana, je ne comprends pas. Ceci dit, les responsabilités sont partagées, c'est vrai, l'État malien a failli quelque part, mais aussi on sent un certain banditisme dans cette rébellion au Nord.
Maintenant,
pour revenir à notre sujet, en Algérie, moi je dis, franchement, ils sont maliens comme nous, ils l'ont dit, ils ont renoncé à tout,
à l'indépendance,
ils se reconnaissent maliens. Donc entre nous, il ne faut pas que la communauté internationale nous mette de la pression, il ne faut pas que l'Algérie nous mette de la pression, il ne faut pas que les différents médiateurs nous mettent de la pression. Nous sommes entre nous maliens, c'est vrai qu'on ne se retrouvait pas, maintenant on a renoué le dialogue avec le dialogue. Donnons-nous le temps, même si c'est pendant un an, chaque fois que c'est nécessaire, on fait des avancées. Et au finish, on va signer un document qui ne souffrira en tout cas d'aucun doute pour son application. Sinon, tout de suite, avec le couteau sous la gorge, nous allons signer des choses. La communauté internationale va applaudir, mais dans deux ou trois ans, on va dire qu'un tel n'a pas respecté ça, un tel n'a pas respecté, et ce sera une raison pour d'autres de prendre des armes.
On prend la réaction de chacun et puis on continue avec le deuxième sujet.
Soyons réalistes. Négociation et dans tout ça. Quand on négocie dans n'importe quelle mission, il faut fixer...
Mais pourquoi ne pas fixer un deadline de 2 ans?
Pourquoi 2 ans? Quelque chose qu'on peut avoir en un mois ou 45 jours. Pourquoi des négociations une année ou plusieurs années? Non. Il y a eu des rencontres préparatoires. Le terrain a été préparé.
Où?
Ça a été préparé en Algérie, ça a été préparé à Ouagadougou, Laisse-moi terminer. Quand il y a des négociations, surtout en l'espèce, obligatoirement il faut qu'il y ait des pressions. Parce qu'il y a des gens derrière les rebelles, il y a des puissances derrière les rebelles. Et ce sont ces puissances-là qui les ont aidés aujourd'hui, qui sont obligés aussi de faire des pressions sur elles, pour que les rebelles puissent céder sur certains points. C'est tout à fait normal. Les pressions existent dans une négociation. Madame, je t'ouvre une parenthèse quand je parle de mauvaise gouvernance. Les gens qui ont pris les armes le 4 mai à Kidal, si ce n'est pas la mauvaise gouvernance, comment se fait-il que des gens qui ont intégré l'armée, une centaine se retrouvent tous à Kidal, dans leur terre d'origine? S'il y avait une bonne gouvernance, il ne faut pas accepter, laisser
une dizaine, quinzaine de rebelles tous dans une même caserne. Il faut les amener à Bougouni, à Sikasso. Il faut les amener à Yamfolila. Pourquoi tout ça qui date? C'est parce qu'on a favorisé. On a favorisé les regroupements à Kidal.
Qu'il a refusé.
Et ils ont des responsabilités à Kidal. Ils ont les clés des magasins de munitions qu'ils ont pu créer une mutinerie à l'intérieur pour aller faire une rébellion.
C'est
la mauvaise gouvernance. Non, j'ai dit c'est la mauvaise gouvernance de nos autorités.
Ça, c'est du banditisme.
Que les rebelles se sont retrouvés à Kidal.
On va fermer cette parenthèse. S'il vous plaît.
Ce n'est pas normal.
Et dans l'armée, on appelle ça de l'indicisme.
Il faut se calmer, sinon on ne va pas s'entendre.
Tout ça, c'est la mauvaise gouvernance parce qu'on ne sanctionne pas les indisciplinés au sein de notre armée.
D'accord. Draman Aliou va boucler ce sujet.
Oui, je pense qu'il calme nous. On parle pour les auditeurs aussi. Il faut qu'on se calme. C'est passionnant. Mais c'est que je suis sûr aujourd'hui. Quand j'ai dit qu'il faut aller doucement, on ne peut rien de bon sur la pression. C'est con de tout le monde. Mm-hmm. Et surtout quand quelqu'un veut faire sa renommée sur notre dos, l'Algérie, ce n'est pas le bon exemple. Tous les accords ont été signés en Algérie, mais qu'est-ce que ça a donné? Chaque fois, on tourne la main et on signe. C'est facile, il faut que nous venions avec nos propositions et qu'on prenne le temps qu'il faut négocier ligne par ligne pour avoir un accord applicable. Le mot est important. Et pour une fois, même les rebelles ont reconnu qu'il ne faut pas se précipiter. Parce qu'il y a aussi un enjeu que les gens ne disent pas. Sur le terrain, les menaces sont plus puissants. Sur le terrain, l'Asia est en train de perdre le terrain face aux terroristes du Mijao et autres là. Ils savent tous la nécessité d'aller à un accord de paix avec le Mali. Ils n'ont pas le choix. Ils sont essoufflés physiquement, militairement, ils sont essoufflés financièrement. Ce que je vous dis seulement, en définitive, aujourd'hui, on est dans un contexte qui est fort à la sortie de la crise. Pauvre-t-on, mais on aussi avec l'esprit, pas avec la, avec et sous la pression.
D'accord.
Et surtout, nous ne précisons pas parce qu'on n'a aucun intérêt.
Et sur ce, nous allons aborder le deuxième sujet de ce débat, l'échange de prisonniers. Mardi dernier, une quarantaine d'hommes de l'armée irrégulière malienne ont été libérés. Ils avaient été faits prisonniers lors de la bataille de Kidal fin mai dernier. Et au même moment, le gouvernement malien a procédé à la libération d'une quarantaine de Touaregs faits prisonniers lors des patrouilles dans le nord du Mali. Alors, je me tourne vers Ibrahim Koulibaly. Cette opération a été baptisée « opération de décryptation avant Alger ». Va-t-elle servir à quelque chose selon vous?
Oui, moi je crois que ça sert à beaucoup de choses déjà parce que c'est vrai que du côté des autorités maliennes, les otages aux mains, en tout cas des groupes armés, affaiblissaient beaucoup l'État. Et du côté même des rebelles, c'était une revendication catégorique. Hein. Ils tenaient vraiment à la libération de leurs otages. Mmh. Et je crois même que c'était dans les
prisonniers de guerre.
Oui. Voilà, donc autant des prisonniers de guerre, des prisonniers, je préfère le mot prisonnier, excuse-moi. Donc c'était des prisonniers, il faut appeler les choses par leur nom, c'était des prisonniers de guerre. Donc moi je pense que des deux côtés, ça a permis quand même de décrisper, ça a permis de briser un peu le mur de glace et ça installe la confiance. Vous voyez, donc c'était un geste préliminaire qui a tout son sens. Même si on veut être mesquin, on peut trouver des choses à dire et à redire. Mais pour l'instant, l'air n'est pas assez là. Faisons le constat que des deux côtés, il y a une volonté d'aller vers une décrispation.
D'accord, Shana Takiou, quelle analyse faites-vous de cette opération?
Cette opération, il faut la saluer. C'est une bonne chose parce que des soldats maliens étaient entre les mains du MNLA et du HCIA. Il était du devoir de l'État de chercher à les libérer par tous les moyens, même s'il fallait payer de l'argent comme les Européens le font. Les Européens le font. L'État malien se devait de s'impliquer pour la libération de nos vaillants militaires qui ont été faits prisonniers. Donc, la méthode est toute trouvée. Au niveau du Mali également, il y avait des prisonniers MNLA, HUA, qui n'avaient pas les mains tachetées de sang. Donc, il y a eu une proposition dans ce sens-là. Donc, il y a eu un échange de prisonniers. C'est une bonne chose. Ça permet de décrisper la situation et ça permet de recréer la joie, l'envie de vivre au niveau de plusieurs familles, les familles des militaires, ceux qui ont vu leurs proches, leurs parents, leurs connaissances venir. C'est beau à voir, c'est émouvant. Et je pense que dans le cadre de ces négociations, c'est une très bonne chose. Mais seulement,
Il faut faire la différence entre les terroristes et les prisonniers de guerre. Et je pense qu'à cet effet-là, il semble que l'État fait cette différence parce que des gens comme Wandou Sen et autres sont en prison parce que ce sont des terroristes. Ils ne sont pas concernés.
En deux mots, avant d'aller à la pause,
moi,
Dramana.
Je savais que tu as parlé en un mot.
En un mot, ouais, d'accord.
Bon, en fait, il paraît qu'il y a 13 qui n'ont pas été libérés parce qu'ils ont une preuve de l'implication dans les crimes.
Tu as dit plusieurs mots déjà.
Hein. Oui, mais ce qui est sûr et certain, c'est un geste humanitaire et on ne peut que saluer ça. Mm-hmm. Mais en tout cas, est-ce qu'ils ont tout le monde a été libéré de part et d'autre? C'est la question qui se pose. Moi, je connais des familles qui m'ont contacté aujourd'hui, mm-hmm. qui disent que leurs parents ne sont pas retournés. Or, on ne l'a pas annoncé la mort de leurs parents.
D'accord.
C'est que tout n'est pas encore clair dans cette affaire-là.
D'accord.
Non, c'est clair. Ça, c'est les prisonniers que les MNLA et HA détiennent. S'il y a d'autres disparus, il faut les mettre au compte des disparus.
On va en parler.
Mais, madame, mon grand frère, là, on dirait qu'il parle à la place de l'État. La question que je pose, elle est claire.
Est-ce qu'ils ont un truc,
à l'État malien, d'assurer aux parents que telle personne est morte en combat. Et c'est pas compliqué.
J'ai dit, j'ai de la jugeote, je réfléchis. T'as mieux aussi mes réflexions.
Non.
Dans le même sens.
On va faire passer quelques messages, nous revenons après.
Courant, on va se mettre à la place.
Studio Tamani, Urtel, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, radio Benkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Le forum de la presse du studio Tamani fait un gros plan sur les pourparlers d'Alger, l'accord de défense entre le Mali et la France et l'échange de prisonniers. Shahana Takiou du journal 22 septembre, Ibrahim Koulibaly du journal J'oublie tout le temps le nom, de la Nouvelle Tribune, Draman Aliou Kone de Renouveau FM répondent à nos questions et nous allons parler à présent du traité de coopération de défense. Avant d'y venir, on va essayer de compléter le deuxième sujet, l'échange de prisonniers. Vous avez parlé tantôt de 13 prisonniers qui sont toujours détenus. Quel est le sort qui leur est réservé?
Non, on va le juger, c'est simple, parce que c'était des gens qui sont impliqués dans l'enlèvement d'otages, qui sont aussi impliqués dans le trafic de drogue, mm-hmm. et parfois qui sont impliqués dans le crime de sang. Mm-hmm. Je crois qu'ils vont accélérer la procédure, l'instruction des dossiers pour les juger, certainement pour les larguer après, hein, les élargir après. Mm-hmm. Mais ce qui est sûr, c'est déjà une décision très responsable de l'État malien. Ils ont dit qu'il faut faire le distinguo entre ceux qui ont été pris sur les champs de bataille et qui sont des prisonniers de guerre et ceux qui sont des criminels qui ont été pris en flagrant délit parfois des crimes. Et en ce moment, dès que le distinguo est fait, ils ont élargi ceux qui peuvent être élargis dans le cadre d'un geste humanitaire vis-à-vis des groupes armés. On salue ça. Mais quand ils ont compris qu'il y a des gens qui ont commis des crimes, l'État malien a le devoir de les juger selon la loi malienne. C'est des leçons qu'on donne comme ça, et ça peut servir à dégager d'autres personnes qui, sous la couverture des mouvements armés, commettent des crimes qu'on ne peut pas laisser passer comme ça. C'est vraiment un geste salutaire. Et j'en suis là-dessus, c'est pas très courant de ma part, quand même. Je sais qu'il faut saluer cette chose. Mmh. Ils ont été courageux sur la question et j'espère qu'on va rester ferme sur le même sujet jusqu'à la fin.
D'accord. On va entamer maintenant le troisième sujet. C'est intervenu mercredi. La France et le Mali ont signé un traité de coopération en matière de défense. Ce document confère un cadre juridique à la présence militaire française au Mali. À propos, on va écouter Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense.
Nous avons signé un traité de coopération de défense qui remplace un accord qui existait déjà, qui était un accord de coopération de sécurité qui datait de 1985. Donc il était nécessaire que les relations entre nos deux pays soient garanties juridiquement par un acte de cette importance, comme on le fait d'ailleurs avec le Sénégal et avec la Côte d'Ivoire. Ça permet de fixer le cadre d'une coopération. Ça veut dire le cadre de la coopération en matière de formation, d'équipement, de communication Et ça veut dire aussi avoir les garanties juridiques pour les personnels militaires français présents ici au Mali ou pour les personnels maliens présents en France.
Alors, Ibrahim Koulibaly, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce traité de coopération de défense ?
Moi, je trouve qu'il y a trop de passion autour de cette question, alors qu'elle est très simple pour moi. Elle existait déjà. On a formalisé. On a fait une certaine révision de l'accord qui était là. C'est pas du nouveau. Les gens sont en train de s'agiter comme si c'est quelque chose de nouveau que le Mali est en train de faire avec la France. L'accord de coopération, on l'a dit, c'est du 6 mai 1985. Le 6 mai 1985, le Mali a signé un accord de coopération militaire avec la France. Aujourd'hui, on ne fait que réviser cet accord de coopération militaire en renforçant bien sûr un certain nombre d'aspects là-dedans. Donc, ce n'est pas du nouveau. Et moi, je trouve que dans la situation actuelle du Mali, avec le terrorisme international dont nous sommes victimes, vu l'étendue de notre territoire, vu l'environnement même de la sous-région, moi, je pense qu'un tel accord ne peut pas être synonyme de crime. Le Mali, pour moi, ça n'engage que ma personne, a fait tout intérêt à signer cet accord-là. En tout cas, pour sauver ce qui peut être sauvé encore. Parce que ce que nous avons vécu avec les djihadistes, Moujao et tous les narcotrafiquants, ce n'est pas terminé. Il y a une certaine accalmie, mais le Nord est loin d'être pacifié. Les gens ne sont pas partis. Ils sont là. Et la preuve a été donnée qu'un État seul aujourd'hui ne peut pas faire face à ces mouvements. Le Nigeria, qui est un géant de l'Afrique, est confronté au problème Boko Haram. Et le président Atete, quoi qu'on nous reproche, avant de partir, il avait toujours réclamé une conférence des pays de la sous-région, de la région sahélo-sahélienne, parce que pour dire qu'un seul pays ne peut pas faire face à cette menace. Et aujourd'hui, nous sommes devant cet état de fait. Et s'il y a un accord de coopération militaire qui nous permet de ne plus revivre le cauchemar de Kona, de ne plus revivre le cauchemar d'Agalog, de ne plus revivre le cauchemar d'Anéfis, moi je suis partant.
D'accord, Chana Takiou, votre avis là-dessus?
Bon, vous savez, l'accord de défense, avant sa signature, avait fait couler beaucoup d'encre. On ne savait pas de quoi il s'agit. Le mercredi, l'accord a été signé, il n'a pas été rendu public. Et c'est ce matin que j'ai vu l'accord dans son intégralité dans le journal Info Matin.
Officiel de
l'État. Hein? Dans le journal Info Matin. Mm-hmm. Bon, l'accord sous les yeux. Donc, je n'ai vraiment pas tous les détails de l'accord pour faire une analyse, oui, objective de la situation. Sur la base de ce que
Mais
le ministre français...
Mais qu'est-ce que le Mali peut gagner dans ce genre de partenariat, selon vous?
Bon, à en croire nos autorités et celle de la France, il s'agit d'échanges d'informations, d'équipements, de formations. Et tous les Maliens qui sont favorables pour cet accord, comme il vient de le dire, pensent qu'avec cet accord, il n'y aura plus de rébellion.
Non,
si c'est ça.
Non, c'est pas ça.
Ben, non, écoutez-moi. Les gens pensent qu'avec cet accord, il n'y aura plus de rébellion parce qu'en cas de rébellion, la France va les mater.
Non.
Pourtant, écoute-moi, non.
Et à propos, Jean-Yves Le Drian a déclaré à la télé qu'il ne sera pas question de deux armées, il n'y aura qu'une seule armée.
Et il s'agit de l'armée malienne.
Ça veut tout dire.
Moi, je l'ai compris par rapport aux différents mouvements armés. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas tolérer que les mouvements armés créent une milice ou une sorte d'armée. Il n'y aura qu'une seule armée, l'armée malienne. Mais aujourd'hui, nous sommes en pourparler avec les mouvements armés. Il peut y avoir accord. Mais on a des rébellions cycliques. Dans 5 ans, 10 ans, si d'autres Touaregs encore se mettent en rébellion, dans le commun de... Vraiment, ici, laissez-moi tomber. Pour le commun de mortels, je sais que je dis l'accord, c'est un accord très... C'est en deux pages, qui est très volumineux. J'ai dit encore une fois de plus que je ne l'ai pas lu dans les détails pour faire une analyse méticuleuse de l'accord.
Bon.
Mais, ce que les Maliens pense de cet accord de défense, parce que sans le voir, ceux qui sont favorables pour l'accord de défense pensent que si on avait signé même cet accord de défense, qu'il n'y aurait pas eu les événements de mai dernier à Kidal. Et qu'avec l'accord de défense avec Paris,
demain, après-demain, s'il y a une rébellion aux portes du Mali, cette rébellion sera matée grâce au soutien de la France.
Ce n'est pas le cas.
Bon. Ce n'est pas le cas. La France a été appelée dans des conditions extrêmement, dans des conditions extrêmement difficiles. Ah, sur la base d'une résolution de l'ONU que la France est intervenue pour chasser les rebelles. Mmh. Il n'y avait pas un cadre juridique bien tracé pour permettre une intervention militaire française au Mali. La France s'est basée sur une résolution de l'ONU pour chasser les terroristes de Gao et de Tombouctou, même si la France les a acceptés toujours à Kidal. Est-ce que vous voyez ? Donc maintenant, il s'agit de tracer un cadre juridique permettant à l'armée française de travailler avec l'armée malienne et d'intervenir s'il le faut. C'est ce cadre-là que l'accord de défense, de mon point de vue, trace présentement.
D'accord. Draman Aliou, quoi, bon,
en fait, moi, je veux dire, il ne faut pas combattre les rebelles. C'est clair. Tout mouvement qui se dit malien ne sera pas combattu par la France. On a vu le cas de la Côte d'Ivoire. Il y a toujours un accord de défense. Ils ont un accord de défense avec la France, mais ils n'ont pas combattu la rébellion ivoirienne. C'est clair. C'est pour avant tout une coopération militaire qui va combattre le terrorisme international. Cela est clair. Mais la question que je me pose, est-ce qu'on a le choix ? Dans l'état actuel de notre pays, on n'a pas le choix. On est obligé d'aller vers ces accords-là. Mmh. Et malheureusement, c'est l'État, c'est le gouvernement qui a tout fait, qui a entretenu cette confusion, cette suspicion autour d'un accord qui n'a rien de grave. Moi, j'ai lu ça de long en large. Mmh. Et sur nous aussi, tout accord militaire a des accords secrets. Personne ne peut rien faire contre ça. Tout accord de coopération militaire a des accords secrets. Mais notre pays aujourd'hui n'est pas en mesure de se faire le luxe de se priver d'un soutien comme celui de la France. Je pose la question chaque fois, si la France avait demandé un accord de défense le lendemain de son intervention à Kona, qui allait crier au scandale ? Ce n'est pas ces faux nationalistes-là qui, au nom de quel prétexte, parlent de souveraineté ou quelle est notre souveraineté aujourd'hui, quand on n'est pas en mesure de garantir notre sécurité à Bamako. Il y a des quartiers où nos forces de police ne pas mettre le pied. Le Mali aujourd'hui, il faut être réaliste. À la limite, il faut être honnête. On n'a pas le choix. Sinon, ces accords de coopération, comme on a toujours dit, c'est un point de gouvernance. Tenons les meilleurs profits de cette collaboration avec la France en formant les meilleurs soldats, pas nos petits neveux, par les fils à papa, par les frères de nos copines, des vrais soldats qui peuvent, dans 5-10 ans, élever notre armée qui est par terre. Je mesure le mot. Notre armée est par terre, elle n'est nullement. Aujourd'hui, on a besoin de soutenir tout le monde pour mettre sur pied notre armée et, dans 10-15 ans, s'occuper nous-mêmes, notre coopération.
Là, tu me permets de réagir là. Tu as parlé de l'accord de coopération militaire avec la Côte d'Ivoire. Mais que Paris n'a pas aidé les rebelles. Paris a bel et bien aidé les rebelles.
C'est
Paris qui a fait que Bagbo est tombé.
Non,
c'est eux qui sont allés prendre Bagbo juste dans ce
temps. Non, Paris a aidé les rebelles. Ça, c'est la crise post-politique.
Paris qui a fait tomber Bagbo.
C'est un autre débat.
C'est parce que les militaires sont stationnés en Côte d'Ivoire. Si, Paris a aidé les rebelles ivoiriens.
Ça, c'est un certain personnel.
Donc, si il y a.
Ça, c'est un joueur subjectif.
S'il y a un accord de coopération.
On est presque à la fin.
S'il y a un accord de coopération.
Il y a un autre exemple là.
Paris s'installe dans notre pays. Et s'il y a un conflit politique, Paris choisit son camp.
On va donner la parole à Issé pour boucler. Issé n'a pas parlé. Draman, s'il vous plaît, vous avez suffisamment parlé. C'est déjà fini. Un dernier mot.
La France a un accord avec le Sénégal. Il y a aussi la rébellion casamassienne. Mais la France n'a jamais entendu dans cette rébellion. Ce n'est pas son problème.
Il n'a jamais menacé, menacé le pouvoir politique de Dakar. La rébellion n'a jamais menacé le pouvoir politique de Dakar.
Chana, s'il vous plaît, on donne la parole à Ibrahim Koulibaly pour boucler maintenant.
Moi, je crois ce débat. Mettons la balle à terre. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'appui militaire de la France. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que nous n'avons plus d'armée. Tout le monde est d'accord. Si dans cet accord de coopération, on va former nos militaires, tout le monde sait que le monde du 21e siècle, c'est un monde d'information et de communication. S'ils vont nous aider en termes de communication, Moi, je pense que en termes d'équipement, moi, je pense que ne serait-ce que ces trois aspects, l'accord mérite d'être signé.
Voilà. Oui, tout le monde est d'accord pour ça.
Merci,
hein.
merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Point final donc à ce débat qui avait comme invité Shahana Takiou du journal 22 septembre, Ibrahim Koulibaly de la Nouvelle Tribune, Draman Aliou Kone de Renouveau FM. Sira Bathil a animé ce débat pour vous. Nous, Djiré a assuré les opérations techniques. À la réalisation, il y avait Ousmane Diadé Touré. Merci de nous avoir suivis. Donc, nous vous souhaitons un très bon week-end. Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halou de Mouni.
Chenibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.